L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'aime, l'émission quotidienne de Radio Évasion. À midi et rediffusée à 18h. Il y a des saisons comme ça où la nature nous parle, davantage peut-être, certains sujets se font plus pressants. Là, c'est l'automne, alors on va moins à la plage. Peut-être que c'est tant mieux pour elle, parce que nous, les humains, avec nos gros sabots, on ne se rend pas compte, mais souvent, on perturbe, presque tout le temps en fait. Nous, on voit la plage comme un espace de loisirs, de baignade, d'activités nautiques en tout genre. Quand il y a des installations de type digue, parking, bitumé, on oublie encore plus que la plage, c'est d'abord un milieu sauvage, un écosystème, comme on dit, qui a sa vie propre. Notre invité est souvent à la plage pour observer tout ça. D'abord pour l'association que vous connaissez, car on en a déjà parlé, Grumpy Nature, mais aussi parce qu'il est salarié de Bretagne Vivante. C'est sa casquette du jour. David Emery, bonjour.
Bonjour Véronique.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est cet écosystème? Alors chez nous, dunes, il y en a, peut-être pas partout, mais bon, dunes, plages, littorales. Comment ça fonctionne? Quelles sont les espèces? Quelles sont leurs interactions, etc.?
Alors oui, on peut expliquer et à la limite, je vais le prendre dans le sens inverse.
Allons-y, moi je suis docile.
Depuis l'eau jusqu'aux dunes. La plage, en fait, peut être scindée en trois parties. La partie qui va être recouverte à marée basse et à marée haute, pardon, et découverte à marée basse. La partie de plage qui va être juste recouverte à marée haute lors des grandes marées, des forts coefficients. Et puis, il y a la partie dune qui, elle-même, peut être scindée en plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs types de dunes.
Il n'y a pas toujours des dunes, on est d'accord.
Il n'y a pas toujours des dunes, bah non, parce que l'homme est passé par là, donc les dunes ont disparu parfois.
Ah oui, parce que sinon il y aurait systématiquement des dunes.
Bah, peut-être pas systématiquement, mais il y a beaucoup d'endroits où il y avait des dunes, et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit en introduction, il y a des parkings, il y a des digues, mais la dune est naturellement ce rempart en fait, que nous on a créé derrière, quoi. Mais alors pour revenir sur l'explication de l'écosystème en fait, du milieu de la plage, on va s'intéresser principalement aux hautes plages aujourd'hui, parce que y a la partie aquatique, subaquatique, mais le sujet c'est plus les hautes plages, avec tous ses habitants, tout ce qu'on y trouve, tout ce que l'homme peut y faire. Et du coup ça commence à peu près à partir de cette ligne sombre qu'on trouve souvent sur la plage, qui est la laisse de mer.
La fameuse laisse de mer, on avait même consacré une émission entière parce qu'il y a des programmes de recherche participative. Bretagne Vivante y participe d'ailleurs, Bretagne Vivante, c'est ça Plage Vivante, c'est ça?
C'est ça, on participe sur plusieurs aspects à ce programme avec la station de Concarneau et Pauline.
Et la laisse de mer, qu'est-ce qu'il y a dedans, il faut rappeler?
Eh bien la laisse de mer, en fait, c'est l'élément primordial, vital de la plage. Et des dunes, c'est pas un élément sale de la plage, c'est au contraire, il n'y a rien de plus naturel. Et en fait, c'est les marées qui vont apporter à chaque marée en fait, des déchets entre guillemets organiques naturels du milieu marin. En fait, c'est les êtres vivants qui meurent dans la mer, qui sont apportés par les flots sur la plage et qui vont constituer cet amas de déchets naturels.
Il y a des algues, ça c'est très facile à identifier en fait. Et puis sinon, il y a...
Il y a des algues, il y a des cadavres de poissons. L'actualité en ce moment, c'est les cétacés, c'est les grosses baleines, les rorquals, notamment en mer d'Iroise. Mais ça peut être les crustacés, ça peut être les coquillages, ça peut être plein de choses qui viennent de la mer. Et malheureusement, on trouve aussi des déchets, et là c'est vraiment le terme, anthropiques, liés aux activités humaines.
Donc des petits morceaux de filet, c'est ça, hein? Enfin des morceaux de plastique souvent.
Morceaux de plastique, vêtements, bois traité, fer, de tout quoi, qui viennent des activités humaines et qui viennent polluer en fait cette laisse de mer.
Ouais, parce que cette laisse de mer, il y a aussi des êtres complètement vivants dedans, hein? Il n'y a pas que des cadavres d'animaux. Hein?
Totalement, en fait, comme je disais, c'est l'élément primordial de la plage, et cette laisse de mer, on peut la comparer au tas de compost de notre jardin. C'est exactement le même rôle. Elle va donc se transformer, se détériorer par des bactéries, par des organismes, des micro-organismes, des invertébrés qui vont la grignoter pour se nourrir, qui eux-mêmes vont servir d'alimentation à d'autres prédateurs à une autre échelle.
Un peu plus gros, par exemple, les puces, les fameuses puces.
Les puces qui vont être mangées par les oiseaux qui vont être mangées par des renards, par des rapaces. Voilà, donc c'est toute la chaîne alimentaire, en fait, c'est l'élément primordial. Et aussi, elle va nourrir la dune. Parce qu'elle va nourrir pas que les animaux, mais les plantes aussi. Et les plantes vont permettre de fixer la dune. Donc après, il y a la partie d'estran qui... où les gens vont avoir leurs activités, où les animaux vont venir aussi chercher leur nourriture, se reposer, s'abriter. Et puis on va arriver au pied de dune, et la dune, elle peut être scindée en plusieurs parties, on va faire ça très schématiquement. On va voir la dune embryonnaire, avec les premières plantes pionnières, puis la dune blanche, puis la dune grise, où la dune grise, c'est la partie de dune qui est fixée avec une forte densité de végétation. Et en fait, sur ces dunes, on va trouver des végétaux qui sont localisés vraiment que sur le littoral, qu'on ne va pas trouver un kilomètre derrière le littoral, parce qu'ils ont besoin de ces spécificités-là. Et donc, ils vont faire d'eux des plantes plutôt rares et localisées, qui font aussi d'elles des plantes patrimoniales qu'il faut protéger.
Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Est-ce qu'on peut donner des exemples peut-être de ces
plantes? Il y a le fameux chou marin, il y a le panicot, il y a le pavot cornu, les zoyas, le calquil, le pourpier, plein de la bête maritime, la criste aussi. Tout ça, c'est très localisé et ça fait partie du littoral, de notre patrimoine littoral. Et il faut faire attention, parce que tout ça, c'est fragile. Et tout ça, c'est nourri par la laisse de mer.
Et les belles dunes qu'on conserve encore, enfin, il y a celle de Sainte-Anne-la-Palue peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait citer dans le coin?
Alors dans le coin, il y a Sainte-Anne, après il n'y a pas, en Bête de Dordogne, il n'y a pas grand-chose, il y a la Berre.
Ouais,
exact. Et après c'est des morceaux de dunes, c'est des reliquats, mais il y a forcément de l'enrochement, de l'endiguement, du parking. Donc dans la Bête de Dordogne, c'est il n'y a plus grand-chose, quoi. Après, c'est la baie d'Audierne, ouais, c'est Gaffe qui bronze.
Ah oui, donc on commence à s'éloigner.
Oui. Il y a Goulevin dans le nord aussi.
Et c'est pour les oiseaux alors, puisque c'est quand même les oiseaux le sujet normalement de cette émission, et les gravelots en particulier, comment ils trouvent leur place là-dedans?
Alors c'est compliqué, il faut batailler, parce qu'ils ont de la compétition avec les activités humaines. Alors, globalement, on va trouver des limicoles, des laridés. Alors, les limicoles, c'est les oiseaux avec des longues pattes et des longs becs qui sont là à fouiner dans le sable, dans la vase, pour trouver leur nourriture et qu'on voit souvent courir le long de l'eau. Alors, souvent, c'est beaucoup de bécassos. On va trouver les courliers, on va trouver les huitriers-pies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plein d'espèces. On va trouver aussi des canards, différents canards.
Ah, c'est des limicoles, les canards?
Non, c'est des canards, des anatidés.
Oui. D'accord, okay.
Donc les anatidés, famille des canards, on peut en trouver sur le bord des plages, mais un peu plus rarement. Et puis, il y a bien sûr les laridés, tout ce qui est mouettes et goélands, qu'on voit en masse en Bretagne. Donc limicoles et laridés, c'est les principales espèces qu'on peut voir sur nos plages. Et la star là-dedans, c'est le gravelot à collier interrompu.
Alors, il est quoi, lui? Limicole?
Lui, il est limicole. Bon. C'est un petit limicole qui pèse un peu moins qu'un merle, qui est à peu près de la taille du merle, et qui est facile à observer sur les plages. Et en fait, il va passer la mauvaise saison en Afrique de l'Ouest et ou sur la péninsule ibérique. Et puis, au printemps, il va revenir sur nos plages pour se reproduire.
Et il a un petit collier, c'est ça? Enfin, c'est pour ça qu'on l'appelle collier interrompu.
Il a un collier interrompu, en fait. Le collier ne fait pas tout le tour de la gorge. Il s'arrête au niveau de la gorge. Le mâle a une barre noire frontale sur le front et une calotte au-dessus de la tête chocolat. Le reste du corps est plutôt sur le dos, c'est plutôt beige-marron et blanc sur le ventre avec un petit bec noir et des pattes noires. Et la femelle a un collier moins marqué. Elle n'a pas de barre frontale, elle n'a pas de calotte marron. Et elle est plus beige pour se fondre dans son élément quand justement elle est au nid.
On va y venir, bien sûr. Juste, ils n'ont pas vraiment des longs coups, les gravelots
Non, ce n'est pas des oiseaux avec des longs coups. Ce n'est pas comme un héron ou même un courlis qui peut avoir un coup un peu plus long. Mais c'est comme un merle, quoi.
Ouais. Ils sont discrets et en plus, ils ont un mode de leur de ponte qui est quand même très spécial. Enfin, je ne sais pas s'ils sont les seuls à faire ça, mais...
Non, c'est pas les seuls à faire comme ça. Et oui, c'est un peu spécial. Alors, pour remettre dans le contexte, en fait, le gravelot collier interrompu, c'est une espèce qui cultive l'échec. Il va pas gagner les Jeux Olympiques, le pauvre. C'est pas gentil, mais c'est la réalité. C'est sa réalité à lui.
On se demande comment il est arrivé jusqu'à nous, d'ailleurs.
C'est ça. Mais en fait, son point fort, c'est qu'il est ultra robuste dans le sens où il accepte plein d'obstacles. Et qui va les surmonter. Et le but pour eux, c'est de vivre longtemps pour pondre un maximum d'œufs et avoir un maximum de poussins à l'envol. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 80% des pontes qui n'arrivent pas à éclosion chaque année en Bretagne pour le gravelot à coulis interrompu. Parce qu'il va nicher à même le sol. Ses œufs ressemblent à des œufs de caille, un peu plus petits, un peu plus clairs. Et en fait, ils sont mimétiques avec le sol.
Et puis ça ressemble à des galets un peu, donc ils pondent dans les galets parfois aussi.
Ils pondent sur les cordons de galets, sur le sable, ils peuvent pondre dans les dunes aussi. Du coup, détecter un nid est très compliqué. Déjà pour des yeux avertis, c'est compliqué. Alors pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est peine perdue.
Ouais. Donc on marche dessus, enfin on marche dessus. On peut vraiment marcher dessus sans faire exprès.
Le risque, c'est ça, c'est qu'on peut marcher dessus, même avec toute la bonne volonté du monde, on peut... peut avoir un accident et c'est malheureusement comme ça quoi. C'est genre, et justement pour éviter ça il y aura des choses à voir, à faire, avoir un comportement qui est adapté, mais ça on en parlera sûrement plus tard.
Oui, tout à fait.
Et pour finir sur le mode de reproduction, en fait il faut savoir que la femelle peut pondre de 1 à 4 pontes dans la saison.
Donc saison, c'est de quand à quand en gros ?
C'est à peu près d'avril jusqu'à fin juillet pour les œufs. Et l'élevage des jeunes peut aller jusqu'à la mi-septembre. Donc c'est une période de reproduction qui est très étalée dans le temps. Parce que justement, c'est un oiseau qui peut faire beaucoup de pontes pour essayer d'en avoir une au moins qui arrive à éclosion. Mmh. Et il faut savoir qu'au final, la donnée principale, ça va être le succès reproducteur. Donc c'est-à-dire le nombre de jeunes qui vont arriver à l'envol par couple. Donc, ils vont arriver adultes. Mmh. Et cette valeur est très faible en Bretagne. Elle est en moyenne de 0,5 jeunes à l'envol par couple, alors qu'il faudrait atteindre, les stats ont montré qu'il faudrait atteindre 0,83.
Pour renouveler les générations, quoi. Enfin...
Pas pour renouveler, mais pour maintenir la population en l'état actuel.
Ah ouais. Et ça, c'est... Ben, la Bretagne, on est plutôt mauvais élève ou... Enfin, je veux dire, à ce niveau-là...
On est comme en Normandie, l'autre région qui est très en pointe là-dessus, c'est sur ce sujet-là, sur ce suivi-là, c'est la Normandie, et on a exactement les mêmes résultats. Donc on n'est pas bon ou mauvais élève, c'est juste que ça se passe comme ça. Quoi.
Et les gravelots, ils vont en Bretagne, mais c'est tout le littoral qui est concerné, je suppose.
Alors le gravelot qui est interrompu, on le trouve depuis la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole et sur le bassin méditerranéen.
Donc, un succès reproductif très très faible, on va dire. Après, en fait, ils s'envolent. Enfin, quand ils ont fini leur reproduction, en juillet, août, ils repartent, c'est ça ?
Alors, une fois qu'ils ont fini leur reproduction, avant de repartir en voyage, ouais. ils vont faire ce qu'on appelle des rassemblements postnuptiaux. Ça veut dire que les jeunes de l'année et les adultes vont se rassembler à un même endroit, qui est toujours le même sur les secteurs où ça se passe, parce que ça ne se passe pas partout. Et en fait, là, ils vont chercher de la tranquillité, ils vont chercher de la nourriture pour se ressourcer et en fait restaurer leurs ressources énergétiques pour partir dans de bonnes conditions en voyage, quoi, en migration. C'est un peu comme nous quand on part dans le sud, on s'arrête à la station-service, on fait le plein et puis on est reparti. Eux, c'est la même chose. Et donc, cette période-là, elle est aussi cruciale que la période de reproduction parce qu'il leur faut du calme et de la nourriture.
Et c'est à quel endroit de la... Enfin, c'est quand même à la plage qu'ils font ces rassemblements, les gravelots, ouais.
Alors, ces rassemblements ont lieu sur la plage, sur cette partie de haute plage, en fait, qui est recouverte à marée haute, principalement lors des très gros coefficients. Et en fait, à marée basse, ils vont s'éclater sur la plage pour aller se nourrir au ras du flot.
Donc, vous, à Bretagne Vivante, vous observez tout ça et vous constatez que ça ne s'arrange pas, j'imagine.
Alors, oui, alors il n'y a pas que Bretagne Vivante qui travaille là-dessus. On a une trentaine de partenaires sur toute la Bretagne, depuis la baie du Mont Saint-Michel jusqu'à l'estuaire de la Vilaine. Il y a des relais avec des structures un peu partout et des bénévoles. Et du coup, oui, ces deux dernières années, c'est pas fameux. Il y a eu, autant on a été sur un accroissement de la population de 2015 jusqu'à 2019. Donc, on était sur des effectifs autour de 230 couples. Il faut se rappeler qu'en 2011, on était à 190 couples. Donc, nos efforts des uns et des autres ont servi. Et là, depuis le confinement, on observe une petite baisse. Alors, rien d'inquiétant, mais il faut rester vigilant parce qu'en fait, c'est des espèces qui ont des cycles, en fait. Mais il ne faut pas que ce cycle de baisse dure trop longtemps non plus. Donc, il faut rester vigilant. Ça veut dire que les efforts qu'on a consenti jusque-là, on fonctionnait en partie, mais que l'équilibre est très très fragile. Quoi.
Et pourtant, pendant le grand confinement de mars 2020, on aurait pu se dire, bah, c'est bien, il n'y avait pas trop d'humains sur la plage, Et ça aurait dû faire augmenter les effectifs.
Alors, c'est bien de dire qu'il n'y avait pas trop d'humains, parce que normalement, il n'y aurait pas dû avoir
d'humains du tout.
Mais ça n'a pas été le cas. Et non, en fait, concernant le grave loculier interrompu, en fait, c'était une catastrophe, ce confinement. Autant ça a servi à la végétation, qui a en fait un pouvoir de se développer très rapide.
De se régénérer aussi
régénérer
facilement.
Ouais. Facilement que des graves, je veux dire, des oiseaux, des mammifères, ben, faut le temps de la pompe d'incubation, de la gestation, c'est pas la génération spontanée. Et du coup, le confinement a servi aux végétaux, qui en ont profité, ils n'étaient pas piétinés, donc ils ont pris leur place. Mais pour les gravelots, en fait, le gravelot cherche aussi quelque part la présence humaine, parce que c'est une source de protection contre la prédation de la journée. Donc, contre les corneilles, contre d'éventuels renards, goélands.
Oui, il faudrait redire qui sont les autres prédateurs, à part les humains. Ouais.
Alors, les humains ne sont pas des prédateurs. En fait, c'est des sources de dérangement par nos activités. On va déranger l'oiseau qui est au nid. Du reste, on a fait une étude depuis 2 ans, on a une étude en cours, qui montre que sur des périodes d'observation données, donc de 6 heures ou 4 heures, il y a 70% de dérangement sur l'oiseau qui est au nid. Et donc ces 30% de dérangement, c'est dû aux activités humaines, c'est dû aux chiens, c'est dû aux prédateurs de la faune sauvage.
Donc faune sauvage, c'est quoi? Renard, corbeau,
renard, corvidé, donc corneille, pie, goéland, et probablement serpent, mais c'est pas avéré ça. Faucon aussi. Et c'est naturel, donc on n'y peut rien, et c'est comme ça. Après, juste sur la prédation, par exemple, par les corneilles et les pies, comme elles sont très liées à l'homme, elles vont aussi profiter des activités humaines. Donc nous, quand on va faire un pique-nique à la plage et qu'on laisse un morceau de fromage, un morceau de sandwich, c'est favorable à ces espèces-là. Et c'est aussi ça qui va les amener sur la plage. Et justement, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas une prolifération de ces espèces qui n'ont rien à faire sur la plage, au final.
Oui, c'est ça.
Et qui posent problème, un réel problème, quoi.
Donc pendant le confinement, comme il y avait moins d'humains, ces animaux sauvages étaient plus présents finalement, et donc ils s'attaquaient beaucoup aux gravelots en fait.
Alors pourquoi ça a moins bien fonctionné, ça on ne sait pas réellement, mais on a vu des corneilles arpenter la plage de long en large, en travers, comme jamais en fait. Donc on peut supposer qu'il y a eu une prédation plus accrue, mais il n'y a peut-être pas eu que ça aussi, il y a peut-être eu des effets dus au climat, choses comme ça. Mais la présence humaine, si le comportement humain a du bon sens et est responsabilisé, en fait, peut ne pas poser plus de problèmes que ça. Mais il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que l'homme ne pose aucun problème. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit juste qu'il cherchait certainement, quelque part, la présence humaine pour se protéger. Mais il faut que les humains aient un comportement qui soit responsable face à la présence de cette biodiversité, en fait.
Donc, c'est là qu'on en arrive aux conseils et recommandations. Pour des humains bien éduqués, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les comportements à adopter à la plage ou à arrêter, en fait, à cesser?
Alors, comme tu l'as dit en introduction, l'homme a toujours pris la plage pour un grand terrain de jeu où il n'y avait rien, où on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait allumer le barbecue, chalumeau, se faire des bisous, même si faire des bisous à la plage, c'est ce qu'il y a de
voilà,
mieux.
Voilà, c'est pas dangereux.
Allez-y, quoi, vous gênez pas. Et faire du sport, faire du vélo, mettre la serviette. Ok, mais en fait, aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens, il faut leur expliquer ce qu'est qu'une plage. Et donc, tu l'as très bien dit en introduction, et je le redis là, c'est un monde vivant qui grouille de vie, des milliards d'êtres vivants qui sont là et auxquels on doit faire attention. Alors, à la plage, il y a plusieurs choses à faire. On va commencer par nos amis les chiens. Alors, ça va faire bondir certains, mais j'assume totalement ma position. Il y a une réglementation, il faut juste se donner les moyens qu'elle soit appliquée et la faire respecter par un propriétaire de chien. Et un chien tenu en laisse sur la plage, avec lequel on peut se promener sans qu'il court dans tous les sens, c'est déjà un moindre problème.
C'est déjà ça, mais ceci dit, elles sont interdites, les plages, à certaines périodes, quoi.
À certaines périodes, elles sont interdites, et je sais pas, on s'arrête au feu rouge, le règlement du code de la route se dit d'arrêter, on arrête. Donc à la plage, les chiens sont interdits une période précise dans l'année, on ne devrait pas avoir de chiens, même tenus en laisse sur la plage.
Et ça, c'est toutes les plages où les chiens sont interdits?
Non, justement, c'est ça aussi le problème, c'est que d'une plage à l'autre, la réglementation va être différente. Donc les gens, comment ils font pour s'y retrouver? Donc, le mieux serait d'avoir une réglementation unique, homogène sur tout le littoral français, je dis bien français, voire même si on parle de l'Europe,
européen,
donc sur l'Europe, ça serait le mieux. Comme ça, les touristes qui viennent, ils sont au courant, ils savent comme c'est comme chez eux, et voilà, il n'y a pas de souci, et on parle tous la même langue, du coup. Après, il y a un truc, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que les chiens, ils ont des besoins à faire, et souvent, la promenade du matin, c'est pour qu'ils aillent faire leurs besoins dans les dunes, des choses comme ça. Et ça, c'est à proscrire, parce qu'en fait, les déjections canines sont aussi un problème. Alors là, du coup, pas pour les oiseaux, mais pour la végétation. Si on est sur une végétation d'un milieu peu riche, et apporter des excréments d'animaux va enrichir davantage et donc va transformer aussi le cortège des espèces florales. Et on a dit en introduction que c'était des espèces rares, localisées, patrimoniales, donc protégées. Et ça serait dommage de voir nos dunes envahies par des orties ou autres espèces beaucoup plus communes qu'on va trouver partout en France. Donc il y a ça aussi. Obliger les propriétaires de chiens à avoir le chien en laisse, ramasser les excréments comme on fait en ville. Genre, c'est pas plus gênant qu'autre chose. Et il y a de plus en plus de gens qui le font.
Oui, heureusement.
Oui. Ensuite, il faut éviter... Non, c'est même pas qu'il faut éviter. Il faut bannir de nos comportements le fait d'avoir son chien, de lâcher et lui dire « cours dans le tas d'oiseaux, poursuis les oiseaux
comme c'est rigolo. » Mmh.
On parlait de l'association Grampy Nature en introduction aussi. Elle a fait une étude en Baie de Douarnenez sur le dérangement des activités humaines et a montré que sur... Il y a 15% de dérangement des oiseaux sur, pareil, une période donnée d'observation. Et il y a plus de la moitié de ces 15% qui sont dus à du dérangement canin.
Mmh, c'est ça, le chien qui court
après les oiseaux. Le chien qui court pendant 22 minutes après un groupe de bécasso, ça, c'est pas possible, en fait. Mmh. Parce que le chien, ok, il s'amuse, mais les oiseaux, là, on parle de survie, en fait.
Ouais.
Ils s'amusent pas, eux.
Et donc, ce qui est valable pour les chiens, c'est valable pour les humains aussi, bien sûr. Ne pas laisser les enfants courir et même ne pas traverser un groupe d'oiseaux, en fait. C'est ça, quand on sort de l'eau, contourner les oiseaux.
C'est ça. En fait, c'est pas des interdictions, c'est juste du bon sens. Et ça ne gâche pas la journée. Je veux dire,
Non, ça change rien.
Ça change strictement rien. Et puis, on reste plus longtemps dans l'eau quand on sort de l'eau ou on est plus longtemps sur la plage. En fait, quand on a un groupe d'oiseaux, que ce soit maintenant... Alors maintenant, on est en période de migration post-nuptiale et certaines espèces ont déjà débuté leur hivernage. Ça veut dire qu'ils vont rester plusieurs mois, semaines sur nos plages pour se reposer, pour trouver de la nourriture et préparer leur saison de reproduction l'année prochaine. Donc dès maintenant, se joue la saison de reproduction. Et en fait, si on arrive, on dit à notre enfant, vas-y, cours dans le groupe pour faire envoler les oiseaux parce que c'est joli, en plus ça fait une belle photo, c'est pas possible, c'est pas entendable parce qu'en fait, on joue avec la vie des oiseaux là. Et il faut juste dire à notre enfant, là il y a un groupe d'oiseaux, et on va le contourner à 20-30 mètres. Et puis, il y en a certains qui vont bouger, mais ce n'est pas grave. On va avoir fait l'effort. Et puis, nous, notre balade, elle n'est pas fichue. Et on peut la continuer. Et à chaque groupe d'oiseaux, c'est comme ça, en fait. Et se promener à marée basse, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'espace pour tout le monde. Donc, il y a de l'espace pour les oiseaux, pour la faune, pour la flore, pour nous aussi, pour s'amuser. À marée haute, forcément, la bande d'estran qui reste est beaucoup plus restreinte. Et donc, sur les zones ou des plages où il y a des oiseaux qui restent à marée haute, c'est plus compliqué. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller se promener à marée haute, mais il y a des gestes à adapter, pareil. Et là, on parle des oiseaux, des animaux, mais il y a aussi se promener sur les sentiers balisés, pas faire du hors-piste.
Oui, parce que quand c'est la saison des nids, bon là, ce n'est pas la saison des nids, mais voilà, c'est où qu'il faut marcher
Alors quand c'est la saison des nids, et il vaut mieux marcher en bas de plage, parce que comme on l'a expliqué, les oiseaux qui vont nicher, ça va être en haut de plage. Et dans les dunes, il y a aussi des passereaux qui vont nicher au sol. Donc se promener sauvagement dans les dunes, c'est une catastrophe pour la flore et pour la faune et pour la dune, parce qu'au final on va fragiliser la dune et il ne faut pas oublier que la dune c'est aussi une protection pour nos maisons qui sont situées en arrière du littoral, pour les activités professionnelles et de loisirs qu'on peut avoir.
C'est une digue naturelle la dune.
C'est une digue naturelle et c'est notre meilleur allié. Donc si on n'en prend pas soin, si on enlève la laisse de mer, la dune elle finira par disparaître. Alors oui, après on peut amener des tractopelles et en refaire des dunes, mais c'est pas ça la solution en fait. Ça c'est n'importe quoi en fait. Et donc se promener plutôt à marée basse en saison de reproduction. J'ai envie de dire aussi en saison d'hivernage, même si les oiseaux sont plus près de l'eau, mais donc nous se remonter un petit peu. Et peut-être même privilégier un peu plus les hautes plages, parce que du coup il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de risque pour des œufs ou des poussins, parce qu'il y a les poussins aussi. Après, bien sûr, éviter de jeter nos déchets. On vient faire un pique-nique, on a amené le panier plein, on peut repartir avec le panier à moitié vide de déchets, c'est pas un problème ça.
On devrait même pas avoir à le dire.
Oui, mais si. Mmh. On est à une époque où on utilise des masques. Les masques, éviter de les enterrer dans le sable. parce qu'on est obligé d'envoyer des cribleuses pour retirer les masques. Et du coup, la cribleuse, son passage, ça asphyxie la plage. Il n'y a plus de forme de vie derrière.
Idem pour les mégots, d'ailleurs.
Hein. Idem pour les mégots, idem pour tous les déchets, en fait. Et ça, que ce soit à la plage, ou dans la ville, ou dans la campagne, on ne jette pas nos déchets. Parce que ça
sauf les déchets organiques, parce que là, ça peut nourrir éventuellement des oiseaux. Mais bon, pas trop, quoi, parce que c'est, voilà, si ça attire les corbeaux, enfin les corneilles, etc.
Oui, et puis jeter une peau de banane, pas forcément, ouais. Elle ne va pas se dégrader en deux jours.
Non,
donc voilà, il faut faire attention. Mais vaut mieux jeter une peau de banane que jeter son sac plastique. Même si, encore une fois, si je dis ça, il y en a qui vont avoir les cheveux qui s'érissent, mais voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et il y a aussi une grosse problématique, c'est la problématique des opérations de ramassage de déchets. Alors, ça part d'une très bonne intention et il ne faut pas l'interdire, il faut que les gens continuent. Mais en fait, c'est maintenant qu'on nettoie les plages. C'est en automne, en hiver, et au printemps et en été, on ne nettoie plus les plages. Et en fait, on ne cherche pas à faire des plages propres pour les touristes, parce que ça n'a pas de sens. En automne, en hiver, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets, pour ramasser. Il n'y a pas de risque d'écraser une ponte, d'écraser des poussins, de détruire un nid ou quoi que ce soit. Au printemps, il y a ce risque-là. Alors, si vraiment c'est indispensable, on peut toujours se rapprocher du gestionnaire du site ou de la mairie, et notamment avec le suivi Gravelot, les partenaires, que ce soit Bretagne Vivante ou les autres partenaires, on a une carte interactive où on note où sont les nids et choses comme ça. Et du coup, il y a des actions qui peuvent se faire au printemps sur des zones où il n'y a aucun enjeu. Et du coup, là, on laisse faire les sessions de ramassage de déchets. Mais encore une fois, les sessions de ramassage de déchets, c'est en automne et en hiver, pas au printemps. Et puis, s'il y a une palette sur la plage, eh ben, elle attendra l'automne pour être ramassée. Et du coup, moi, j'invite cordialement tous nos élus à nous accompagner sur les sessions Gravelot. Et je serais même ambitieux en lançant une invitation à Monsieur le Président de la République s'il veut nous accompagner un jour. Il est le bienvenu en Bretagne.
On va essayer de retenir tous ces conseils-là. On refera une émission, hein, s'il faut, pour parler des autres oiseaux, parce que là, on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc, merci, David. À bientôt.
Merci, Véronique.
Nos verdures.